qui est Roger Brulotte pour toi?
Ben, Roger Brulotte, ce qui est hot, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde qui écoutait le baseball. Mais tout le monde connaissait Roger Brulotte. Des gens qui ont jamais vu un match de baseball, des gens qui ont jamais entendu un match de baseball. C'est une voix qui a transcendé le sport en tant que tel, ouais, pour devenir probablement une des voix les plus reconnaissables et un des personnages les plus légendaires de l'histoire du média moderne.
Puis il n'y a jamais liché son vocabulaire. Tu sais, t'entends des descripteurs au baseball, t'entends des descripteurs au hockey, puis c'est un vocabulaire qui est très liché, c'est tout le temps en continu, tandis que Roger Brulotte te parlait de la game.
Ouais, 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 ouais.
Il t'expliquait les choses, il était émotif, puis son fameux « bonsoir, elle est partie », ça va rester à tout jamais, ça, Denis.
C'est sûr, puis tu sais, c'est probablement le truc le plus hot que tu peux faire quand tu travailles dans les médias. C'est-à-dire consacrer une expression qui va te survivre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui.
Avant Roger Brulotte, bonsoir, elle est partie, ça voulait rien dire. Roger Brulotte va être mort depuis 40 ans, puis encore du monde qui vont dire bonsoir, elle est partie en regardant une game de baseball ou dans n'importe quel autre contexte, puis tout le monde va connecter là-dessus.
Si je te dis salut, salut, c'était qui disait ça?
Salut, salut.
Ouais.
C'était qui ça?
C'était le monsieur qui est décédé.
Ah, c'est Jean Lapierre. Jean Lapierre. Ben oui, c'est vrai.
Salut, salut.
Mais c'est pas aussi fort.
Ah ouais. Ah, mais moi, il était fort.
Ouais.
Ouais.
Mais là, on l'a tout pas reconnu.
Ouais. Salut, salut.
Bonsoir, elle est partie beaucoup plus fort.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est... consacré à un événement sportif, c'est-tu consacré à un moment dans un match.
C'est-tu la plus forte, en fait? Je cherche d'autres expressions qui ont eu cet impact-là que tout le monde reconnaît en l'espace d'un
claquement
de doigts.
Possiblement. Je dirais que parce qu'on écoute beaucoup le Canadien RDS et le but de Pierre
Houle, oui,
sa façon de le dire.
Sa façon de le dire, c'est ça. C'est pas l'expression comme la façon de le dire.
D'ailleurs, à TVA Sport, Félix Séguin dit « et compte ».
Ouais,
et non pas le but pour se différencier, ce qui est très
correct.
Non,
parfait.
Il dit compte.
Ouais. Puis si je vous dis monsieur, êtes-vous fou?
Ça c'est André Arthur.
Mais
bonsoir, elle est partie parce que tu sais le baseball à Montréal a eu ses hauts et ses bas, et même dans ses plus bas, les gens reconnaissaient Roger puis lui parlaient de bonsoir, elle est partie.
Si je vous dis 10-4.
10-4, c'est Claude Poirier.
Ouais, c'est
Claude Poirier.
Ouais.
Ma parole.
Ma parole, c'est Pierre. Ouais. Ça, c'est vraiment l'expression à Pierre. Ça, puis le eh ben.
Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Ça, c'est Édouard Carpentier.
Édouard Carpentier.
Ben oui. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Ouais.
Marc Blondin.
Ouais.
Pour rester dans la
même. Il y en a pas
même.
Pire, là.
Il y en a beaucoup. Mais bonsoir, elle est partie vraiment dans une classe à part. Pour moi, en tout cas.
T'es qui là, Anakin? Pas le temps de
niaiser. Lui, c'est lui, on l'a oublié. Son
on connaît pas son
c'est
nom.
Mais, je tombe à terre.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Il y en a un sacrifice, là.
Il y a moyen de s'amuser, mettons.
La rondelle avait des yeux, mesdames, messieurs. Qui disait ça?
La rondelle avait des yeux.
Ouais.
Ben, ça devait être le cavalier.
Ouais, ça devait être René le cavalier.
René le cavalier.
Ouais. L'écoutais, moi, dans mon temps.
Ouais, ben oui, évidemment.
C'est pour ça que je le sais.
Mais bref, on a perdu un bon, puis ce matin, on va avoir l'occasion. Ce matin et ce midi, on va avoir l'occasion de jaser avec deux grands qui ont passé une bonne partie de leur vie avec Roger Brulotte. Denis Cazavant, qui est descripteur du baseball à TVA Sport, qui est descripteur du hockey aussi. Puis toi, tu vas avoir sur l'heure du midi.
Ouais, Jacques Doucet, le grand comparse de Roger Brulotte.
Très cool.
Il y a encore du monde qui répond au téléphone.
Ben oui, j'ai appelé Jacques Doucet hier midi, je ne sais jamais il va répondre.
Répondu tout de suite. Bien, toi.
Ça me fait penser, quand j'avais commencé à la radio, on appelait le maire de la ville de Québec, on l'appelait chez eux à sa résidence. Là. C'était sa femme qui répondait, le maire Lallier.
Oui.
Il n'est pas là. Téléphone des commissions. Hey, c'est le maire.
Ah, mais Mme Boucher fonctionnait de même aussi.
Ah oui?
Oui.
Tu l'appelais chez eux?
De mémoire, on l'appelait chez elle, oui. Okay.
Mais il était-tu public, son numéro? Parce que M. Lallier, il était public, son numéro. C'était Jean-Paul Lallier, Île-d'Orléans.
Le bon vieux temps de l'accessibilité.
Oui, c'est fini, on est rendu loin. Je ne sais pas si tu as écouté Tout le monde en parle hier. Moi, j'ai pas manqué l'entrevue avec Gisèle Pellicot. Je cherche beaucoup des modèles, moi, dans la vie. Des modèles hommes, des modèles femmes. Peut-être qu'un jour, si Max continue toujours de l'espérer, on aura un modèle non-binaire. Mais des modèles hommes, des modèles femmes, j'adore en trouver. Et Gisèle Pellicot, cette dame qui s'est fait agresser des centaines et des centaines de fois, plus de 200 fois qu'elle se serait fait agresser par au moins 70 hommes, est devenue un modèle de résilience, une combattante de la vie. Puis elle était de passage hier à Tout le monde en parle. J'ai sorti quelques extraits. Sincèrement, j'ai pogné mon 2 minutes. Là. Elle est encore plus exceptionnelle que je le pensais.
C'est le mot que tu as utilisé. Puis c'est un mot important, c'est le mot résilience. J'ai lu un livre là-dessus il y a quelques années qu'on m'avait recommandé. Parce que la résilience, c'est la force de l'humain. C'est d'être capable de passer des fois à travers des épreuves que tu te poses la question, moi, dans des circonstances comme celle-là, est-ce que je serais capable d'avoir la colonne vertébrale droite? Est-ce que je serais capable de passer à travers? Je pense que c'est un livre qui avait été écrit de quelqu'un qui avait fait les camps de concentration à Auschwitz puis qui avait survécu à ça. Puis dans le reste de sa vie, c'est une personne qui avait eu énormément de tragédies aussi puis qui écrivait sur la résilience, parce qu'on a tous des bouts dans nos petites vies ordinaire où on trouve ça tough. T'sais. On trouve le poids des responsabilités tough. Il y en a qui trouvent le poids d'une rupture tough. Ouais. Le poids de perdre sa job, il y en a qui trouvent ça tough. Des fois, c'est un mélange de toutes ces affaires-là. Mais quand tu lis sur des gens exceptionnels comme ça qui vivent des affaires que tu n'oses même pas t'imaginer, toi, comment tu pourrais faire pour passer à travers ça? C'est des leçons de résilience, puis ça, c'en est une.
Elle écoute, a été pendant 50 ans avec son mari, Dominique bon Pellicot. Elle a eu des enfants avec ce mari-là. C'est un homme en qui elle avait une confiance énorme. Et pendant 9 ans, Dominique Pellicot la plaçait régulièrement à son insu dans un sommeil par soumission chimique. Donc, il la droguait pour la violer et la faire violer par d'autres hommes. Et à un moment donné, juste pour faire une histoire courte, les policiers sont arrivés chez elle. Ils se sont aperçus, quand elle a ouvert la porte, que c'était la femme qui était sur les vidéos de l'homme qui venait d'arrêter. Ils se sont rendus compte que c'était elle, la victime, puis ils ont dû lui expliquer. On lui a demandé hier, est-ce en colère ou elle l'est pas? Puis elle semble pas en colère.
La colère, je n'ai jamais ressenti cette chose-là parce que je trouve qu'elle ne résout rien. Elle vous détruit plus qu'autre chose. L'indignation, la trahison, bien sûr. Mais j'ai voulu justement à travers ce livre que ce ressenti donne l'espoir aux autres, parce que je pense que toutes les victimes de violences sexuelles traversent des moments compliqués. Et moi-même, je suis passée par là, mais j'ai trouvé le chemin de la résilience. Et ça, c'est très important, de pouvoir être en paix avec soi-même.
Fait qu'une dame qui a été violée à son insu à de multiples reprises n'a pas éprouvé la colère. Toi, quand tu t'es fâché à 4h du matin à cause de l'alerte Amber, comment tu te sens maintenant?
Tanné, là, Denis, tanné!
Ouais, comment tu te sens, là?
Va l'écrire sur les réseaux sociaux pour dire tanné!
Dénonce-les, montre-les que t'es un gros cave. Ben oui!
C'est ça, montre-les que c'est pas grave si deux enfants se font enlever.
Ben non!
C'est mon petit sommeil qui prime.
Ben oui, mon petit dodo, je m'étais couché à 3h30, là.
Après ça, on lui a demandé ça a été quoi, sa réaction, quand les policiers lui ont dit qu'elle était victime.
Votre ex-mari, M. Pellicot, vous droguait régulièrement aux anxiolytiques et avant de vous violer ou de vous faire violer. Vous le racontez dans votre livre. Entre 2011 et 2020, vous avez été victime de plus de 200 viols par lui et par une cinquantaine d'hommes. M. Pellicot filmait ces viols. Et ce sont les policiers qui vous ont mis au courant des horreurs dont vous aviez été victime. Comment vous avez réagi à cette annonce?
Ça a été d'une violence extrême, ça a été une déflagration, un tsunami. Je me suis vraiment demandé comment j'allais pouvoir me relever de tout cela, parce que ma vie s'est écroulée. J'ai partagé 50 ans avec M. Pellicot. Je pensais que je décris ce monsieur comme quelqu'un d'attentionné, de bien attentionné à mon égard et de bienveillant. Bien sûr que la réalité des faits, pour moi, a été d'une violence extrême.
Tu sais, comment tu dois te sentir quand tu te considères comme quelqu'un de relativement intelligent, tu sais, qui a un certain jugement, puis pendant 50 ans, tu réalises que tu t'es fait mentir, mais ça va au-delà de ça, tu sais. Les personnes qui découvrent que leur conjoint est une double vie, tu sais, un problème de jeu qui a été caché, des infidélités ou whatever, la personne se questionne beaucoup sur son jugement après, hein. Comment j'ai fait pour pas ça, tu sais, comment j'ai fait pour pas me rendre compte que cette personne-là avait un problème de drogue ou que cette personne-là me mentait à tous les jours. Je suis quelqu'un d'intelligent, ça peut pas m'arriver à moi, tu sais, ça arrive rien qu'aux autres. Imagine-toi ce avec quoi elle a dû se réconcilier à l'intérieur d'elle-même, parce que c'est une femme intelligente.
Ouais.
On l'entend, juste à l'entendre parler, tu le sais, ça respire l'intelligence. Elle doit encore se la poser les questions où elle a de la misère à s'endormir puis qu'elle se dit « Mais comment j'ai pu rien voir de tout ce qui est arrivé? »
Ouais, des drames comme ça, c'est la première fois que je n'entends parler, là, mais tu sais, des gars ou des filles qui trompent leur conjoint et tout ça, souvent, ce que je retiens comme témoignage, c'est une fois qu'ils sont mis devant le fait accompli, ils se souviennent qu'il y avait des affaires qui se passaient.
Après.
Mais il y avait tellement confiance en eux qu'ils ne se méfiaient pas. Puis s'ils s'étaient méfiés, ben peut-être qu'ils auraient découvert la vérité avant. Mm. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le quotient intellectuel de cette madame-là. C'est pas mal plus élevé que la moyenne.
Bien, juste être capable de passer à travers tout ça puis de continuer aussi de faire le tour des tribunes publiques. Pour parler de ça, pour parler de son histoire. Il y a bien des gens qui diraient, regarde, j'ai fait le palais de justice, il est condamné. Moi, mon bout est fait, puis j'essaie de rebâtir ma vie. Là,
exactement.
T'sais.
Et là, il fait vraiment une tournée très marquante pour les femmes. Tu vas peut-être y arriver avec le prochain extrait, mais elle se rend compte qu'il y en avait des signaux sur sa santé par la suite.
Mm-hmm. Pendant 10 ans, Denis, elle était avec son mari, elle allait chez son médecin, puis elle expliquait mal ce qui se passait avec son appareil de reproduction, là. Elle ne comprenait pas. Puis son mari était à côté, puis il rencontrait le médecin. Puis le médecin, tu sais, il excluait que la dame s'était faite violer. Là. Son mari est là, elle est toute souriante. Fait que le médecin, il cherchait, OK, ben là, vous avez telle affaire, c'est quoi? Ça peut être quoi? C'est une maladie? C'est une bactérie? On le sait pas. Pendant 10 ans...
Puis le gars, il est là, il sait ce qui se passe. Il regarde le dialogue entre son épouse puis le médecin, puis il dit pas un mot.
Oui, avec sa femme qui est nécessairement très nerveuse de ce qui arrive à son corps.
Faut-tu pas avoir d'humanité?
Ah, ça n'a pas de sens. Ouais.
Parce que je pense que la soumission chimique n'était pas envisagée par le corps médical. J'étais une femme accompagnée par son mari. La soumission chimique, on la considérait plutôt dans les boîtes de nuit avec le GHB. Mm-hmm. Comment identifier que M. Pellicot droguait sa femme à son insu? C'est vrai que j'ai traversé 10 ans d'errance médicale. J'ai vécu des anesthésies générales. J'ai consulté et naturellement, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pensé que j'avais la maladie d'Alzheimer. J'ai pensé que j'avais aussi la tumeur, la maladie de ma maman, parce que j'explique dans mon livre que ma mère a traversé aussi ces moments difficiles. Mais on ne pouvait pas expliquer. Je pense que le corps médical n'était pas formé à cela. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont informés. Ma fille, Caroline Darian, a fondé son association Mandeurpas en 2023, justement par rapport à ce que nous avons vécu.
Elle en veut même pas au médecin.
Hey, tu sais, de toutes les inquiétudes que tu peux avoir dans une vie, les inquiétudes relatives à la santé, c'est celles que tu contrôles pas.
Ouais.
On a toute peur de mourir dans une certaine mesure. Ça fait partie de la torture que l'homme a imposée à sa femme. Tous ces questionnements-là, où tu sais pas ce que t'as, tu vas voir le médecin, tu passes des tests, puis toi, t'es là, t'es stoïque, t'es à côté, tu comprends très bien ce qui se passe, puis tu dis pas un mot. Ça prend des sadiques.
Des questionnements qu'elle devait partager avec son mari le soir.
Ben oui,
lui, hey, chérie, le narratif. Il m'arrive quoi, là? Je suis en train de faire de l'Alzheimer. Hey, c'est ça, tu mords de maman. Ma mère est morte de ça. Je veux pas mourir.
Lui,
il est à côté.
Il contrôlait sa pensée, sa réflexion, puis il essayait de l'aiguiller vers où il voulait qu'elle aille.
Puis je repense à tous ceux qui ont essayé de se défendre dans leur procès, qui n'étaient pas au courant du détail, puis qui allaient violer littéralement une morte chez quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Il n'y a aucune excuse qui tient la route dans une histoire comme celle-là.
Puis là, j'embarque dans un bout assez crunchy. Puis, tu sais, des fois, on se cherche, je le répète, là, on cherche des modèles féminins, on se cherche des modèles masculins. Puis je pense qu'il y a des beaux modèles au Québec. Il y en a beaucoup dans le monde aussi, des beaux modèles. Nelson Mandela peut être un beau modèle masculin
clairement,
pour mille et une raisons. Dans le cas de Gisèle Pellicot, c'est Wonder Woman. C'est Superman. C'est une femme qui est allée au bâton et a dit C'est pas vrai que je vais avoir honte de ce qui s'est passé parce que j'ai rien à voir avec cette affaire-là. Je me suis fait utiliser. Puis elle a décidé de lever la confidentialité sur son nom. Puis elle a décidé de faire face aux criminels qui la violaient. Quelques-uns l'ont violée une fois et d'autres l'ont violée plusieurs fois. T'sais, on parle beaucoup de masculinité toxique puis d'influenceurs toxiques d'un bord comme de l'autre ou d'une Elisabeth Lemay qui dit « Les hommes, je les déteste! C'est mon pire ennemi! » Ben ça, pour moi, c'est pas des modèles. C'est des gens qui sont à l'extrême.
Ouais.
Elle, c'est Wonder Woman. Écoute, la confrontation, c'est juste du bonbon à entendre.
Il m'a fallu 4 ans avant de prendre cette décision parce que je pense, comme la plupart des victimes, quand on est victime de violences sexuelles, on est dans on perd confiance en soi, on perd toute dignité et on a tellement honte qu'on n'a pas envie qu'on parle de nous, en fait. Et je me suis dit qu'il fallait arrêter tout cela. Donc, j'ai pris cette décision en mai 2024. D'ailleurs, je n'ai jamais regretté cette décision parce que j'ai fait face devant ces 51 accusés qui, eux, ne voulaient pas reconnaître les viols qu'ils avaient commis sur moi. Je leur ai tenu tête pendant tout le procès et j'ai fini par avoir gain de cause parce qu'ils ont été reconnus coupables.
Et d'ailleurs, ces hommes-là insistaient pour que le mot « viol » ne soit pas prononcé au nom de la présomption d'innocence. L'un d'eux a même proposé « rapport sexuel
».
Finalement, il y a eu une entente autour de scènes de sexe. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en les voyant, ces hommes-là?
Ce qui m'a marqué, c'est leur lâcheté et leur déni, parce qu'ils n'ont jamais reconnu, ils disaient qu'ils n'étaient pas dans l'intention de venir violer Mme Pellicot, qu'ils n'avaient pas... Monsieur Pellicot avait donné son consentement, donc tout était permis. Et c'est là où, ça, pour moi, ça a été... Quand j'ai pris ma deuxième prise de parole à la barre, j'ai dit qu'il fallait cesser de parler de scènes de sexe et qu'il était bien évident que c'était des scènes de viol.
C'est des couillons qui s'ostinaient au niveau judiciaire sur de la sémantique,
ouais,
alors qu'ils sont allés violer une morte.
Monsieur Pellicot avait dit oui.
Ben oui, mais quand t'as... Oui, c'est ça, là.
Ben pis, oui, hey.
Même si t'embarques dans quelque chose de bizarre, là, à partir du moment où t'arrives dans la chambre, la fille bouge pas, puis elle est morte, là.
Elle savait pas, oui.
Ben oui. Des violeurs, puis bravo, elle s'est dressée devant eux pour répéter le mot en
vrai. Vraiment. Gros.
Fait partie des gestes de noblesse de cette dame-là.
Au départ, elle savait pas si elle voulait voir les vidéos que son mari avait dans ses archives sur sa femme. Et finalement, vers la fin, elle a décidé qu'elle devait voir ses vidéos de viol.
Ça a été du dégoût, bien sûr, on ne peut pas vraiment expliquer parce que ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est de ne... Je n'ai pas reconnu cette femme. Il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus de conscience. Cette femme n'était pas moi, en fait. C'est ce qui m'a aidée aussi à pouvoir aller jusqu'au bout de ce processus de m'opposer au huis clos. Mm-hmm. Parce que je n'avais plus de conscience. Ces hommes sont venus en toute conscience violer une femme totalement inconsciente qui n'avait plus d'âme, en fait. J'étais donnée en pâture à ces individus. Et c'est vrai que, heureusement que les vidéos étaient là pour attester de la vérité. Parce qu'autrement, je ne sais pas comment se serait déroulé le procès.
Denis, elle l'aurait jamais su si les vidéos n'avaient pas été découvertes par les policiers qui avaient arrêté son mari.
Écoute, c'est la survivante d'un holocauste qui a été créé par la personne en qui elle avait le plus confiance, puis un paquet de crottés qui en ont profité parce qu'il y avait une porte ouverte pour aller violer quelqu'un.
Terrible.
Pendant l'affaire Pellicot qui avait fait parler à la grandeur de la planète, il y a un journaliste à Montréal que j'aime bien, à qui je jase une fois de temps en temps, Hugo Meunier, qui a décidé de faire un reportage. Puis lui, il se posait la question, y a-tu bien des gars au Québec qui accepteraient de coucher avec une femme endormie avec justement toute l'histoire qu'on entend parler de Gisèle Pellicot? Et en 48 heures, bon, il a fait une annonce là, sur des sites spécialisés. Il a fait une annonce. Il a réussi à ramasser combien de gars en 48 heures?
Une trentaine.
105 hommes en 48 heures. Ouf. Qui était
au Québec.
Au Québec. Malgré l'affaire Gisèle Pellicot, qui était prêt à dire « Ah, ben tu sais quoi? Ben moi, il y a un monsieur qui m'offre de coucher avec une femme endormie. Ça m'intéresse. »
Le monde est rendu fou.
105 hommes.
Quelle bande de pervers.
C'est parce que c'est comme... C'est tellement clair que c'est une façon de contourner un consentement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ben oui.
Mettons que tu décides chez vous, là, hey, je vais faire semblant de m'endormir, puis tu viens me chercher, puis tu me prends, là, tu sais. Il y a une mise en scène ou whatever. Fais ce que tu veux, t'es chez vous, c'est la personne que t'aimes. Les deux, vous avez le goût de faire ça, amusez-vous. Mais une annonce comme ça, c'est tellement clair que c'est une façon de détourner le consentement de quelqu'un de participer à un acte sexuel. Je peux pas croire que la personne sait pas ce qu'elle fait quand elle dit « Hey, ouais, moi je saute sur l'opportunité. Oui, c'est sûr qu'elle est consentante, la fille qui dort dans l'annonce. »
Ben oui.
Comment tu fais pour t'assurer de ça?
Le gars là, qui m'a proposé, il a demandé « Hey, ça va être correct quand je vais t'endormir puis tu vas te faire violer après. » Ben oui.
C'est sûr qu'elle a pas été droguée, c'est sûr qu'elle n'est pas là contre son gré.
Du tout.
Ouf. L'humain.
Pendant le procès, son mari, avec qui elle a été pendant 50 ans, s'est excusé devant le fait accompli, devant les preuves qui ont été amenées, possiblement pour avoir moins d'années de prison.
Ça arrive un petit peu tard, hein? Dans le processus, là.
Elle, quand elle s'adressait à la cour pour témoigner, elle n'avait pas le droit de lui parler directement. Elle devait parler au président, donc au juge, à chaque fois qu'elle voulait témoigner. D'après toi, veux-tu le revoir ou elle veut pas le voir?
Ouais, j'imagine qu'elle veut le voir, mais je sais pas comment puis je sais pas pourquoi.
Oui, je souhaite aller le rencontrer pour avoir des réponses, parce que pendant toute la procédure, je n'ai pas pu échanger avec lui, je m'adressais au président de la Cour. Mm-hmm. J'ai besoin d'avoir des réponses. D'abord, pourquoi nous avoir fait autant de mal? Pourquoi nous avoir trahis? Et aussi les réponses par rapport à mes enfants. Bien sûr, je ne sais pas si j'aurai les réponses, mais ça fait aussi partie d'une démarche de reconstruction pour moi et une manière aussi de lui dire adieu. Pardonner est extrêmement difficile, ne pas pardonner de tels actes. Mais c'est ce que je dis, je ne sais pas vivre ni dans la haine ni dans la colère. Je pense qu'on a tous les forces en nous. Alors, peut-être pour moi, elles sont peut-être un peu plus importantes que les autres, je ne sais pas.
Mais
ce que je souhaite, à travers tous les drames qu'on peut vivre dans sa vie, il faut garder l'espoir et confiance en soi. Je crois que c'est... Et puis, c'est aussi un message de paix et d'amour sur tout ce livre.
Elle n'aura pas ses réponses. C'est plate, mais c'est ça. T'sais, son mari, c'est un psychopathe.
Oui.
Un psychopathe, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir d'humanité ou d'empathie envers les autres humains. Donc, les regrets, il n'y en a pas. Parce que si tu avais eu à avoir des regrets, tu en aurais eu après... je veux dire, on s'est rendu à combien de viols? Tu es rendu au palais de justice, tu as des regrets. Tu n'as pas des regrets. Tu essaies de faire abaisser ta sentence.
Exactement. S'il y avait eu des regrets après la première ou deuxième fois, il arrivait de dire, my God, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire là.
C'est pas ce qui est arrivé, hein?
Ben non, il l'a fait quoi? Plus de 70 fois, selon les vidéos, 50 hommes qui ont été identifiés.
C'est 200 fois 70 hommes.
200 fois 70 hommes, 50 qui ont été identifiés pour la cause.
Exact. Elle n'aura pas de réponse. Puis c'est ça, là, je suis allé chercher la définition précise d'un psychopathe, puis c'est probablement ça. Là. Trouble de la personnalité caractérisé par un manque d'empathie, l'absence de remords, et aussi, ça vient avec le reste, une grande capacité de manipulation et un charme superficiel. Mm-hmm. Malheureusement, les quelques réponses qu'elle va peut-être avoir, c'est en regardant à l'intérieur d'elle-même. Puis tu sais, tu le disais tantôt, dans des cas d'infidélité standard, là, appelons-les comme ça, la personne, des fois, revient et elle dit « Ah ouais, il y a eu telle affaire. » Elle va probablement passer le reste de sa vie à repenser à plein de petits détails, plein de petites choses où « Hey, c'est vrai, mon mari, il n'a pas d'empathie pour le genre humain. » Puis il y avait des petits signes, il y avait des petites choses que j'ai pas vues.
Cette femme-là est un monument. Il y a une question très pertinente qui est rentrée par texto. Là, je ne sais pas, Jeff, si tu as répondu. 418-971-101, mais elle demande pourquoi elle a gardé le nom de son mari Pellico. Puis c'est une question qui a été posée hier. Puis ce qu'on en comprend, c'est que le nom Pellico n'est pas devenu négatif en raison de ce que son mari a fait. Mais le nom Pellico, il lui appartient et c'est devenu Gisèle Pellico. Le Dominique Pellico, on s'en souvient plus, mais cette femme-là est devenue un modèle de résilience. Puis elle a gardé ce nom-là, Pellico, parce que sa fille s'appelle, elle porte son nom. Ses petits-enfants aussi portent son nom. Elle a une fille qui a changé de nom, là. Mais elle mentionnait que c'est devenu un emblème, Pellico, puis tout le monde va se souvenir de cette histoire-là. Donc, elle veut que ça l'appartienne à son histoire.
Je comprends le raisonnement, mais en pareille circonstance, la première affaire que je me serais débarrassé, c'est le nom.
Elle a rencontré un autre homme.
Mm-hmm.
Elle a 70 ans. Elle est en amour par-dessus la tête.
Ah, tellement beau.
C'est bizarre. Elle a réussi à refaire confiance à un autre homme. Je trouve cette femme-là exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas écoutée, tout le monde en parle, parce que vous détestez, tout le monde en parle. Sachez que vous êtes plusieurs. écoutez juste cet extrait-là. Ouais. C'est une des belles entrevues de Tout le monde en parle de cette année. Autre chose que je voulais discuter avec toi, très rapidement, Denis, si tu le veux bien, un registre des hommes violents. On se pose la question à savoir, dans le cas des multirécidivistes, les hommes battent leur femme ou qui agressent sexuellement leur femme, on se pose la question à savoir si ça prend un registre. Et les policiers disent « oui, ça prend un registre ». À ça, moi, j'ajouterais le registre des pédophiles aussi. Mais je pense qu'on est rendu là.
Ouais, on se pose pas la bonne question. La bonne question, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas déjà tout ça, là? Il me semble que c'est des choses qui reviennent à chaque fois. Puis à chaque fois qu'on évoque la violence d'un crime, à chaque fois qu'on en a un qui vient d'arriver, là, tu sais, on retombe toujours dans cette réflexion-là, dans cette rhétorique-là. Comment ça se fait que déjà, ça n'existe pas? Puis dans le cas des violents et des agresseurs, je l'avais sous les yeux tantôt, je veux dire, c'est des gens qui souvent sont capables de faire énormément de mensonges, énormément de manipulations, mais il y a quelque chose que tu peux pas enlever, c'est, tu sais, tu t'en vas cliquer sur un site internet, puis t'as le nom, puis t'as la photo, t'as les actes d'accusation, puis t'as tous les détails. Il me semble que c'est un outil qu'on devrait avoir d'une société évoluée puis d'une société civilisée, là.
Geneviève Guilbeault avait promis de le faire dans son premier mandat, finalement elle l'a pas fait. Bon, le bracelet, comme tu me parlais ce matin, Jeff, elle l'a mis en place. Ça, les bracelets anti-rapprochement,
le bracelet,
c'est une très bonne chose.
Oui, il fait super bien le bracelet, à moins qu'un juge te permette de l'enlever pour aller dans le sud.
Exact. Ah. Mais un registre public des multirécidivistes, des agresseurs sexuels, moi j'embarquerais là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, en tant que société, avec ces gars-là? Le message, il passe comment? Parce que, tu sais, c'est facile pour moi, je suis pas très intelligent, fait que si je vois un gars battre une femme, je le bats. C'est pas être intelligent, c'est être trop réactif, puis je vais me mettre dans le trouble. Mais attends, en tant que société, on peut faire quoi actuellement, là? On n'a pas de registre, là?
Ben,
on se parle entre gars?
C'est qu'on laisse les prédateurs aller sur leur terrain de chasse, puis ils vont avoir le beau jeu tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui les suit, un pédigré, une carte, une identification, quelque chose qui permettrait justement à quelqu'un. Tu sais, les filles le font de façon générale. Tu sais, j'en parle souvent avec Audrey puis Véro. Puis nous autres aussi, on le fait. On rencontre quelqu'un d'un bar. C'est quoi la première affaire qu'on va aller voir? Facebook. On les voit sa page Facebook, tu sais. On va aller voir les photos.
Qu'est-ce
qu'elle
dit?
Ouais, c'est ça. Et pourquoi ça serait pas le même réflexe, et peut-être un réflexe un peu moins voyeur, un petit peu plus prudent, de dire, ben il y a une place, une application où tu fais deux clics, tu rentres le nom ou tu rentres le profil, puis tu es capable d'aller voir s'il y a des... Je sais qu'il y a le plumitif là, au palais de justice, mais tout n'est pas là, puis c'est peut-être un exercice qui est un petit peu plus ardu. Ça devrait être plus simple, particulièrement pour des cas où il y a de la récidive. Voyons donc. Aidons-nous, là.
Ben, clairement, parce que c'est des maîtres de la manipulation.
C'est ça. On revient toujours à ça.
Puis, tu sais, loin de là de blâmer les victimes, là, au contraire, elles se font embarquer là-dedans parce que c'est des maîtres de la manipulation. Fait que même après 4, après 5, après 6, ils vont en charmer une autre.
C'est ça.
Bref, on a hâte que ces fameux registres-là voient le jour. C'est beau faire des promesses, mais à un moment donné, il faut passer à l'action.
Faut livrer.
Parfait. Il reste 2 minutes, Denis. Ce matin, Max nous en sort tout le temps à chaque fin de semaine. À chaque lundi, il nous dit ce qui s'est passé pendant la fin de semaine. Et là, ce matin, j'étais un peu triste parce que je parlais d'un de mes anciens chums qui est tombé dans l'alcoolisme parce qu'il vidait les fonds de bière dans une salle de bingo. Lui, il faisait le ménage de la salle de bingo, il ramassait les bières qui n'avaient pas été bues par les madames qui tamponnaient les cartes de bingo. Puis lui, il buvait ça là-dedans. Puis moi, je trouvais ça dégueulasse. Et est-ce que tu sais ce que Max m'a avoué?
Qui fait la même chose?
Une fois de temps en temps, quand il y a une bière qui est aux trois quarts puis elle traîne sur le bord, Max prend la bière qui ne lui appartient pas et se la tape.
C'est pas arrivé souvent.
Dans le doute, gaz au bout.
C'est déjà arrivé.
On explique ce comportement-là.
Elle est presque pleine.
On avait fait ça, nous autres, au cégep, une fois.
Ça explique pourquoi t'es feu sauvage, là, mais...
Au cégep, à un moment donné, on était sur une terrasse à Saint-Do, à Jonquière, puis il y avait un orage qui était arrivé subitement au point où tout le monde était rentré en dedans, puis il avait laissé les puchets dehors. Puis moi puis mon chum osé, on avait fait le tour, puis on s'était servi généreusement de table en table.
Je fais pas ça souvent, là. C'est peut-être arrivé trois fois.
Dans la fin de semaine?
Non.
Mais dans quel contexte tu juges que de prendre une bouteille qui traîne là
est presque pleine.
C'est une bonne idée.
Est presque pleine.
Oui,
c'est
mais
une
c'est
bière
pas ta bouche
là.
Qui était dessus.
Ben non, mais je sais, mais j'ai mis ma bouche sur des affaires bien pires que ça.
C'est toi qui le dis.
Il y a quelqu'un par texto qui nous dit « Imagine, Max, si quelqu'un avait mis de quoi dans la bière. »
Ouais, ouais, c'est ça. C'est un risque. Pour ça, je le referais pas.
Là, on fera pas de mauvaise blague parce qu'on vient de parler de Mme Pellico.
Ouais.
Fait
ouais,
que je pense ouais. qu'on va arrêter ça là, Max.
C'est ça.
Mais cesse de faire ça, s'il te plaît.
J'ai déjà cessé. Je t'ai dit que je l'avais déjà fait. Je le referais pas, là.
Avec le sourire que t'as, ça me surprendrait.
Tu me donnes-tu un petit 30 secondes vas-y, pour dire merci à la gang de la NSPW de m'avoir reçu en fin
c'est
de semaine.
C'est vrai, c'était samedi au Grizzly Fuzz.
Pour leur première au Grizzly Fuzz avec des matchs en cage. C'était la première fois que je voyais ça autrement qu'à la télévision. Puis malgré les blessures, les nombreuses blessures que je porte suite à mon intervention dans le dernier match, je voulais dire merci à Steven Sullivan, à Nightmare Manson et à tous ceux qui ont fait de cet événement un succès, c'était sold out, c'était super
t'as-tu
le fun.
T'as-tu réussi en étant payeur?
J'ai voulu intervenir, puis à chaque fois que j'ai un plan avec Nightmare Manson, ça se retourne contre moi. Puis finalement, j'ai été victime de ce qu'on appelle un Stone Cold Stunner.
Oui.
Oui, gracieuseté d'un ancien collègue. Donc, puis oui, je t'en dois une, mon ami.
Hein? Puis oui, t'as fait un Stunner?
Oui.
Non, là, les gens, quand ils embarquent dans le ring, ils deviennent complètement malades mentales. Denis, oui. Il se fait dire « Hey, Denis, ça, c'est une chaise, puis il y a Marceau qui est là, ça ferait bien que tu ailles lui donner... »
Hey, t'as l'as-tu donné le coup?
Non, mais t'es un peu... Mon âme a quitté mon corps.
Je le sais. Ben, on le voit sur la vidéo.
C'est rien. C'est rien. Moi, après ça, il a fallu que je reçoive un coup de chaise d'une violence inouïe de la part de Antonin Iaccarini. Oui. Je porte encore les marques de cette chaise-là.
Ça n'a pas fait le même bruit. Attends,
le mien est un petit peu plus fort.
Un petit peu.
Un petit peu.
Merci,
14 heures.
Bye-bye. Salut.
Le Pit Stop avec Denis Gravel.